L'Officine Universelle Bully présente Rituel historique de beauté. Épisode 10. Le rêve de la reine Zeynab. Comment la reine berbère projeta l'expansion de l'empire almoravide, Marrakech, 1072. Devineresse, sorcière, compagne de djinn, telles étaient les rumeurs qui circulaient à son sujet dans la ville d'Armat, une petite cité et un haut lieu d'échange commercial et de culture. Zeynab riait à ses souvenirs de sa première jeunesse, du temps où elle était mariée à l'émir d'Armat. Lorsque Armat fut attaqué et conquis par le guerrier du désert Abou Bakar, celui-ci épousa la belle veuve Zeynab. Mais une révolte tribale au Sahara l'obligea à retourner dans le désert. Sachant que Zeynab ne pourrait supporter les rigueurs de la vie des contrées désertiques, Abou Bakar divorça et la remaria à son cousin et lieutenant, Youssef ibn Tashfin. Le couple devait continuer à gouverner les terres s'étendant du Maroc à l'Espagne. Épouse de roi était un des autres noms qu'on lui donnait. C'est alors que, réputée à travers le pays pour son incomparable beauté et sa sagesse, Zeynab se singularisa entre toutes en annonçant formellement qu'elle épouserait uniquement l'homme capable de régner sur l'ensemble du Maroc. Née dans une tribu berbère, l'une des nombreuses de la région, elle rêvait d'un état unifié et de se marier à un homme qui avait la capacité de transformer ce rêve en réalité. Émir Youssef, viens, regarde comme mon orangerie est belle. Les fruits seront bientôt mûrs pour la cueillette. Zeynab, tout enthousiaste, appela son mari. Du haut de la terrasse de leur palais, le couple amoureux regarda le bosquet situé en contrebas dans l'enceinte du domaine et au-delà, imagina la cité future de Marrakech, leur rêve commun. Là où actuellement, les maisons en briques roses, les mosquées et les marchés cohabitaient avec les tentes du désert. Au loin, dans la lumière du soleil couchant, se découpaient les sommets des montagnes de l'Atlas. Youssef ibn Tashfin était son quatrième mari, mais son premier vrai compagnon. La traitant comme une égale, il lui confiait les affaires de l'État, prenant ses conseils à chaque instant. « Votre rêve devient enfin réalité, mon enchanteresse », dit-il tendrement. Dans les milieux politiques, Zeynab était appelée la magicienne ou l'enchanteresse, en raison de ses parfaites compétences dans l'art de négocier, qui avait aidé Youssef à consolider son pouvoir sur Marrakech et à conquérir des régions du Maghreb, territoire qui comprenait le Maroc, l'Algérie et l'Espagne. Zeynab le regarda avec un sourire. « Je rêve d'une ville florissante avec des centaines de vergers, une ville digne d'être la capitale de l'empire que vous allez construire. » C'est pourquoi il faut nous hâter à mettre au point nos plans pour le système d'irrigation de la ville, Émir Youssef. Mais maintenant, il commence à faire sombre et nous devons nous retirer dans nos appartements. De retour dans sa chambre, laquelle était agréablement aménagée et pourtant austère, la belle Zeynab laissa sa servante Kaina prendre soin de son rituel du coucher. Celle-ci lui apporta une bassine d'eau tiède et un petit bol de savon noir Beldi, avec lequel elle lui massa soigneusement le visage pour le nettoyer des impuretés de la journée. Elle rinça le savon et retira délicatement les ornements de la coiffure de Zeynab, dénouant ses longs et beaux cheveux noirs. Versant quelques gouttes dorées de l'huile préférée de Zeynab dans ses mains, Kaina passa ses doigts dans les cheveux de la reine, lui frotta habilement le cuir chevelu et doucement son visage. Zeynab acheva son rituel du coucher en se nettoyant les dents avec une petite branche de siwak et enfin se glissa entre les draps pour une bonne nuit de sommeil. Créer la ville de ses rêves n'était pas une tâche facile. La région historique du Maroc a été témoin pendant des siècles de migrations transfrontalières. Cependant, ses habitants d'origine ont été les Berbères, peuple le plus ancien d'Afrique du Nord. L'historien de l'Antiquité, Hérodote, a décrit les Berbères comme étant des cavaliers naturels, beaux, belliqueux et farouchement indépendants. Parmi cette population, c'est une dynastie berbère islamique, les Almoravides, qui régna sur la majeure partie de la région au XIe siècle. Après avoir établi un empire sur les terres marocaines, elle finit par s'étendre pour dominer le nord-ouest de l'Afrique, le Sahara occidental, la Mauritanie et une partie de l'Algérie. L'empire almoravide allait du Sénégal moderne au sud jusqu'à l'Espagne et le Portugal moderne au nord. Et c'est une femme berbère d'influence notable, Zeynab al-Nafzawiya, réputée pour sa sagesse, son adresse politique et sa beauté à couper le souffle, qui joua un rôle décisif dans l'établissement de cet empire. Les Berbères avaient pour la plupart des traditions matriarcales. Les femmes étaient souvent vénérées comme des reines, des guerrières et des déesses. Elles étaient également les gardiennes de nombreuses anciennes pratiques de beauté et de bien-être, attachées à la purification religieuse, la propreté, les ingrédients locaux et les coutumes berbères. Des recettes et des rituels secrets ont ainsi été transmis par des générations de femmes. L'un des plus merveilleux cadeaux de la région au monde des soins personnels a été la très appréciée huile d'argan, remède embellissant pour de multiples soucis de cheveux et de peau. Pendant des centaines d'années, cette huile extraite du fruit de l'arganier a joué un rôle essentiel dans l'alimentation, les rituels et l'hygiène corporelle des berbères. Pendant des siècles, les femmes berbères ont cassé des noix d'argan et employé des meules pour produire cette huile dorée. Fabriquée exclusivement dans la région du Maroc, cette huile précieuse a été traditionnellement utilisée comme pommade topique pour soulager peau sèche, acné, rides, inflammation cutanée et chute des cheveux. Avec une teneur élevée en vitamine E et en acides gras essentiels, cet élixir pour la chevelure et l'épiderme possède des effets réparateurs et anti-âge et assure une protection solaire naturelle. Les herboristes marocains locaux suggèrent d'ajouter quelques gouttes d'huile de figue et d'huile essentielle de néroli à de l'huile d'argan pure pour obtenir une sensation divine et douce pendant des jours. Un autre trésor berbère de l'univers de la beauté naturelle est l'ancien savon Beldi, ou le savon noir marocain, également connu sous le nom de savon noir, pâte noire démaquillante généralement faite de pulpe d'olive noire. Il arrive qu'on ajoute aussi des feuilles d'eucalyptus séchées et broyées pour obtenir un effet exfoliant. Le Beldi pénètre mieux en le frottant avec une moufle en poil de chèvre appelée Kessa. L'ensemble du rituel laisse la peau délicieusement douce et hydratée. Les Marocains utilisent également depuis longtemps les bienfaits du siwak, une ancienne brosse à dents naturelle faite du bois de noyer, contenant fluor et silice d'origine naturelle, qui prévient les caries dentaires, les maladies de gencives et agit comme un agent de blanchiment des dents. Le lendemain, alors que le soleil, dans sa lumière du matin, baignait les murs lisses du palais en briques crues, Zeynab buvait à petites gorgées son thé préféré à la menthe et à la cardamome dans les jardins verdoyants du domaine. Elle songeait à sa rencontre avec l'architecte de la ville. L'odeur de la précieuse épice et du thé chaud apaisant la transportait dans un lieu de sérénité. Elle imaginait Marrakech comme une ville dotée de beaux bâtiments, de bains publics et privés, de paysages verdoyants et de vergers florissants en oranges, olives, figues et autres. Brahim, l'architecte, avait trouvé une excellente solution pour donner vie à cette région aride en assurant une alimentation régulière en eau pour les habitants de la ville et pour ses vergers. Brahim, vous voilà enfin. Venez prendre du thé et racontez-moi comment progresse le système d'approvisionnement en eau souterraine. Zeynab accueillit l'architecte avec enthousiasme, tandis que les gardes du palais l'escortaient jusqu'à l'endroit où elle était assise. Brahim s'inclina respectueusement et déroula ses rouleaux détaillant les plans des Ketara, le système de canalisation des eaux. Il expliqua la conception originale de deux puits verticaux, reliés par un tunnel en pente douce, qui permettait de capter l'eau souterraine et de l'amener en surface sans avoir à la pomper. Ce n'est pas tout, Malika. Les eaux seront dirigées vers les bains publics et privés, et de là, après 3 jours, seront évacuées pour l'irrigation. Cela nous permettra de ne pas gaspiller cette eau précieuse. Brahim décrivait son coup de maître, consistant à recycler l'eau du bain. Zeynab pouvait à peine contenir son enthousiasme à la perspective de l'embellissement de sa ville. Et voici à quoi ressemblera le bain public. Brahim dévoila avec fierté les dessins du hammam. En s'absorbant dans l'examen du plan, Zeynab admira l'efficacité de l'architecture et le placement intelligent des lignes d'ouverture circulaire, laissant entrer la lumière naturelle par les 3 voûtes qui couvraient les pièces froides, chaudes et très chaudes. Les femmes berbères sont traditionnellement des porteuses d'eau, Brahim, c'est-à-dire des porteuses de la vie même. Et l'élément féminin correspond à l'eau, les deux fournissent vie et nourriture. Je vois que vous avez magnifiquement donné vie à mon rêve. Vous serez dûment récompensé. Zeynab sourit, remerciant Brahim pour ce qu'elle savait être de l'histoire en marche. Satisfaite des idées et des progrès des installations de la ville, Zeynab remit une grande bourse de pièces d'or à l'architecte, signe personnel de reconnaissance pour son ingéniosité. Dans l'islam, au-delà d'un simple nettoyage du corps, le bain est considéré comme un rite de purification du corps, de l'esprit et de l'âme. Les prières ne sont offertes qu'après les ablutions rituelles. Les bains publics ou hammams, construits par les Almoravides, étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie et de beauté. Ils reflétaient la profonde compréhension berbère de la terre et la volonté d'entretenir ses ressources avec la participation de la communauté. Le hammam public n'était pas seulement un lieu de détente, de relaxation et de bain, mais aussi un lieu central favorisant les relations sociales, où l'on pouvait se tenir au courant des commérages et échanger les informations du jour. Pour les femmes, une visite au hammam était un répit bienvenu dans leurs tâches journalières, un rite hebdomadaire consistant à se réserver du temps pour elles-mêmes et pour leur bien-être, un refuge où se retrouver et se délasser à l'abri des regards indiscrets. Les pratiques de relaxation consistaient à laisser la vapeur chaude détoxifier la peau et apaiser les muscles fatigués en se frottant le dos avec du beldi à l'aide du gant Kessa, tout en partageant leurs secrets les plus profonds. Voilà pourquoi l'expérience du hammam était si attendue. L'argile de Rasoul, provenant d'une vallée des montagnes du milieu de l'Atlas, était utilisée pour nettoyer les cheveux. Les argiles, riches en minéraux essentiels et oligo-éléments, sont réputées pour leurs propriétés curatives, détoxifiantes et absorbantes. Les femmes ont employé l'argile Rasoul brune rougeâtre ou l'argile marocaine pour les cheveux et les soins de la peau depuis le 8e siècle. Avec une teneur très élevée en minéraux, notamment en silice, potassium, magnésium et calcium, elle est exceptionnellement efficace pour éliminer les toxines, enlever le surplus de produits et nettoyer les cheveux sans les dépouiller d'huile naturelle. Les femmes mariées se coloraient également la chevelure avec de la pâte de henné, préparée en mélangeant diverses herbes pour les cheveux, avec les feuilles broyées de la plante de henné et de l'eau. La pâte, appliquée et laissée sur les cheveux pendant environ une heure, était ensuite rincée. Elle laissait une belle teinte au burn à la chevelure, tout en l'adoucissant. Un autre usage pour s'embellir consistait à tracer avec du henné de délicats motifs artistiques sur les mains et les pieds. La tradition a prospéré et les femmes continuent de nos jours à s'appliquer des dessins au henné pour décorer certaines parties du corps. Un matin de novembre 1072, Zeynab apprit la nouvelle que son précédent mari, Abou Bakar, revenait pour tester la loyauté de son cousin Youssef. Un an auparavant, Abou Bakar laissait une Marrakech naissante dans les mains habiles de Youssef. Il partait dans le désert du Sahara pour mater les rébellions tribales et maintenant, voilà qu'il réapparaissait pour reprendre sa place d'autrefois. Or, en l'absence d'Abou Bakar, avec le soutien efficace de la sagesse de Zeynab, Youssef s'était révélé être un excellent chef. Il avait gagné l'amour et le respect des sujets de la ville, et sa réputation d'homme d'état d'excellence s'était répandue partout. Maintenant, lui et Zeynab souhaitaient maintenir leur pouvoir pour continuer à développer Marrakech avec une autorité et une maîtrise complète. Mais l'arrivée imminente d'Abou Bakar l'inquiétait. Il se tourna vers Zeynab pour connaître son point de vue concernant la façon de traiter cette délicate situation. Émir Youssef, nous devons informer Abou Bakar de notre autorité sur Marrakech, sans le défier, conseilla un jour Zeynab à son mari au cours d'un petit déjeuner. Cela impliquera de gérer sa visite de manière judicieuse, en lui donnant de l'importance, sans céder aucun pouvoir. J'ai un plan sur la façon dont nous pouvons traiter cela, poursuivit-elle. Youssef accepta. Il faisait confiance aux remarques avisées et à la compétence de Zeynab dans les affaires de l'État. « Nos cuisiniers prépareront les meilleurs plats pour Abou Bakar et ses chefs. Lorsque vous le rencontrerez aux abords de la ville, présentez-lui les objets de bienvenue, avec d'autres trésors et cadeaux. » Elle envisagea de se rendre au souk et de superviser personnellement l'achat d'épices, d'herbes et autres produits de base pour la préparation des repas. Elle devait également acheter du parfum, des huiles, de la poudre de fleurs de pavot, avec laquelle elle aimait se colorer les lèvres, ainsi que des soies de premier choix. « Kaina, s'il te plaît, prépare ma visite au marché demain matin », ordonna doucement Zeynab à sa servante. Zeynab aimait les sons et les odeurs du souk. Elle aimait se promener dans ce dédale de rues et de ruelles, et aller chez son vendeur d'épices et herboriste préféré. au marché aux épices, l'explosion de couleurs avec des monticules d'épices rouges, oranges, jaunes et brunes la ravissait. Tandis que les étals de nourriture, avec leur odeur appétissante, l'invitaient à se faire plaisir. Des poteries magnifiquement décorées, disposées dans les échoppes de tapis Kilim, et le bruit des ferronniers s'affairant à fabriquer des objets utiles et beaux, contribuaient à l'ambiance merveilleusement vivante du souk. Elle se réjouissait de cette sortie hebdomadaire, accompagnée de Kaina, et pour sa sécurité, de quelques gardes du palais. Les fleurs d'oranger séchées sentent si bon. Emballez-moi un peu, et de la lavande séchée pour mon bain, et de la menthe infusée pour mon thé. Elle était comme une enfant dans un magasin de friandises, voulant toucher, sentir et goûter à tout dans l'échoppe à parfum de l'herboriste. Oh, et n'oubliez pas les pétales de coquelicot écrasés pour teinter les lèvres. Youssef aimait l'avoir porté les lèvres rouges. Zeynab sourit à cette pensée. Tenez, Malika, je vous ai apporté des noisettes sucrées et des beignets au miel. Vous et le petit prince qui grandit en vous, vous devez avoir faim maintenant, lui dit Kaina en souriant avec dévouement. Elle délia la ficelle qui liait le paquet de confiserie et offrit des friandises alléchantes à sa reine enceinte. Merci. Et avez-vous acheté les épices ? Lui demanda Zeynab en brisant une noisette sucrée dans sa bouche. Oui, Malika. Cannelle, cumin, curcuma, gingembre, safran, muscade, clou de girofle, origan, sauge et thym, lui répondit Kaina en récitant la liste tout en comptant sur le bout de ses doigts. Au Maroc, au XIe siècle, un souk ou une place de marché pouvait être mis en ébullition par le vigoureux marchandage des acheteurs et des vendeurs de fruits et légumes de saison, d'épices et d'herbes. Les arômes des herbes et des fleurs séchées se mêlaient notamment à ceux de la cannelle et du clou de girofle. Dans une autre partie du marché, on trouvait des étals de magnifiques soieries teintes à la main, de tapis artisanaux et de la ferronnerie. Les caravanes de commerçants qui voyageaient à dos de chameau dans le désert du Sahara et les montagnes de l'Atlas apportaient des curiosités et des marchandises de pays lointains. Plumes d'autruche, beau bois d'ébène, peigne et de l'ivoire, lequel serait soigneusement sculpté et taillé pour en faire de délicieuses boîtes à bijoux. Les étals des apothicaires proposaient toutes sortes d'herbes, d'infusions, de potions et de poudres locales. Beaucoup servaient de médecins de quartier, de conseillers en beauté et en bien-être à leurs clients. Pendant des générations, malgré l'aridité du sol, les femmes berbères ont compté sur des remèdes d'origine naturelle pour les embellir et prendre soin de leur peau, de leurs cheveux et de leur bien-être. Les huiles extraites de la noix d'argan et des graines de figues de Barbarie sont connues pour leurs bienfaits hydratants et cicatrisants. Avec l'une des plus grandes quantités d'acides gras essentiels dans toute huile naturelle, l'huile miracle de figue de Barbarie contient également des tocophérols, composés riches en vitamine E, qui combattent les radicaux libres en faisant un produit anti-âge très efficace. Un autre rituel était l'usage cosmétique du pigment de la fleur de pavot rouge, appliqué comme colorant naturel sur les lèvres et les joues. De nos jours, on mélange des écorces ou des graines de grenade séchées et concassées pour ajouter de la couleur et des effets physiques bienfaisants. La préparation, appelée akher fassi, conditionnée dans de minuscules pots en terre cuite ou en argile, apporte une belle teinte rougeâtre tout en étant totalement naturelle et riche en antioxydants. De retour du souk, ayant retrouvé ses appartements simples et élégamment aménagés, Zeynab s'assit sur le fauteuil inclinable, posant ses pieds sur un coussin. Sa grossesse l'avait fatiguée plus tôt que d'habitude. Le soleil commençait à décliner. Les bougies de la chambre avaient été allumées, prêtant à son visage une aura de déesse dans la douce lueur du feu. Sur le sol, les magnifiques tapis de laine tissés à la main apportaient de la chaleur à l'austérité de la pièce. Elle sourit en repensant au moment où elle avait annoncé sa grossesse à Youssef, il y a 5 mois. Il avait été fou de joie et la nouvelle lui avait redonné de l'énergie pour progresser avec détermination dans ses projets d'expansion almoravide vers l'Espagne. Il laisserait un héritage digne à son enfant. « Avez-vous besoin de quelque chose, Malika ?» Kaina interrompit doucement ses réflexions. « S'il te plaît, apporte de l'huile de lavande et masse mon front, Kaina. J'ai besoin de me détendre avant de discuter avec Youssef pendant le dîner de ce soir des détails concernant l'accueil d'Aboubakar. » Cela m'aide aussi à mieux dormir la nuit. Zeynab pencha la tête en arrière, la reposant sur l'appui-tête finement brodée. Sans tarder, Kaina apporta un plateau au bord délicatement ciselé sur lequel étaient posés deux petits bols plaqués or. L'un contenait l'huile de lavande au parfum apaisant et l'autre de l'huile d'olive réchauffée. Elle savait que sa reine avait besoin ces jours-ci davantage de soins et elle aimait s'occuper d'elle. Trempant ses doigts dans l'huile de lavande, puis prenant un peu d'huile d'olive, elle massa doucement le front de Zeynab. Elle avait l'intention de lui donner, avec les huiles, un apaisant massage des pieds. Bien détendue après cet agréable rituel, Zeynab se mit à nettoyer son visage avec le beldi et appliqua sur ses lèvres le pigment de fleurs de pavot rouge qu'elle mélangea à quelques gouttes d'huile d'olive. Elle connaissait l'effet que ses douces lèvres teintées produisaient sur Youssef et rougit à cette pensée. Un peu plus tard, tandis que le couple s'asseyait pour partager un simple mais savoureux dîner composé de tagines de légumes chauds et de couscous, ils firent une discrète prière avant de commencer à se restaurer. Au milieu du repas, Zeynab aborda le sujet de l'arrivée d'Abou Bakar avec Youssef. « Votre cousin est beaucoup trop pieux pour verser le sang. Lorsque vous le rencontrerez, laissez de côté toutes les marques de déférence et d'humilité qu'il attend de vous. » Soyez fier, faites semblant d'avoir le goût du pouvoir, comme si vous étiez son rival. Néanmoins, flattez-le, en lui offrant de riches présents, des marques d'honneur et autres cadeaux précieux du Maghreb. Offrez-en-lui beaucoup, car il vit au Sahara et pense que tout ce qui lui vient d'ici est rare et étrange. Youssef s'émerveillait du caractère lucide et des conseils avisés de sa femme. Il allait rencontrer Abou Bakar dans quelques jours, à mi-chemin entre Marrakech et Armat. Selon les documents historiques, Abou Bakar arriva à Armat le 19 novembre 1072. La confrontation mémorable entre les deux émirs eut lieu à mi-chemin entre les deux villes, à environ 15 km de Marrakech. Ils se rencontrèrent sur un pied d'égalité. La hiérarchie avait cédé la place au respect mutuel. En voyant Youssef accompagné d'une escorte armée, Abou Bakar admit qu'il serait plus sage de lui céder le pouvoir sur Marrakech. Cependant, pour s'assurer qu'Abou Bakar ne se sente pas offensé, Youssef Tashfin lui apporta des richesses et des trésors susceptibles de lui faciliter la vie dans le désert. Les archives parlent de 25 000 dinars d'or, 70 chevaux, 70 épées dont 20 gravées, 20 paires d'éperons dorés, 150 mules de choix, des vêtements de toutes sortes faits des plus délicats calicots et des étoffes. Pour les parfums, il offrit du bois d'aloès, du musc, de l'ambre gris et de l'encens. L'effet spécifique des essences de parfums ou des huiles essentielles est connu depuis des millénaires dans différentes cultures historiques à travers le monde. Les anciens Égyptiens et Grecs utilisaient les huiles essentielles à des fins rituelles et curatives, tout comme les Chinois et les Indiens. Les essences aromatiques provenaient d'éléments de plantes, principalement de l'écorce, des pelures et des fleurs. Elles étaient utilisées à des fins thérapeutiques, cosmétiques ou rituelles pour les bains, les parfums d'ambiance, les huiles de massage ou comme médicaments. Les archéologues ont découvert des preuves de l'art de la distillation lors des fouilles en Mésopotamie. Les formules secrètes de baume, de pâte et d'encens à base d'huile purement naturelle ont été déchiffrées et transcrites sur des tablettes d'argile d'Égypte ancienne. La géographie et le climat du Maroc, régis par la mer Méditerranée vers le nord, l'océan Atlantique vers l'ouest, le désert du Sahara au sud et ses trois principales chaînes de montagnes à l'intérieur, en font une terre propice à la culture d'herbes aromatiques. Pour obtenir différents effets bénéfiques sur la santé, la médecine traditionnelle marocaine utilise généralement les aromates les plus populaires de la région, lavande, menthe, thym, romarin et anthémis. L'huile essentielle de lavande est bien connue pour ses effets relaxants, tandis que les huiles d'agrumes comme la fleur d'oranger ou le néroli sont réputées pour leur capacité à tonifier et à stimuler. Par ailleurs, le thym est utilisé pour ses bienfaits antifongiques, antibactériens et antiseptiques. Le romarin est renommé pour aider à prévenir la chute des cheveux et favoriser leur repousse. L'anthémis ou camomille est employée depuis longtemps dans les pratiques traditionnelles de guérison marocaine pour ses propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et sédatives. La rencontre entre Youssef et Abou Bakar se déroula comme prévu et Youssef fut ravi du résultat. Abou Bakar était retourné au Sahara, transférant officiellement l'autorité sur Marrakech à Youssef. Ce succès, ainsi que l'arrivée attendue d'un nouveau prince, avait stimulé les projets d'expansion de Youssef pour l'empire almoravide. Avec Zeynab à ses côtés, sa confiance dans ses plans s'était renforcée de bien des façons. Malika, je veux organiser une fête ce soir pour célébrer le règlement à l'amiable du retour au désert d'Aboubakar. Je veux à cette occasion annoncer mon programme d'extension de l'empire almoravide aux régions du Nord. J'ai invité nos ministres, nos chefs et leurs épouses. Veuillez vous préparer en conséquence. Bien sûr, mon émir, votre enthousiasme réjouit mon cœur. Je veillerai à ce qu'il y ait un festin digne des rois, répondit Zeynab avec un sourire. Après avoir donné pour instruction aux cuisines de préparer les meilleurs plats à base de légumes, de viande et de céréales, ainsi que des plateaux de dessert et de sucreries, Zeynab revint dans sa chambre pour s'habiller pour la soirée. Kaina avait préparé l'eau du bain dans laquelle trempaient des pétales de rose et des fleurs de lavande. « Vous serez détendue et parfumée comme une fleur épanouie, ma reine. » Elle versa de l'eau chaude sur les tresses de Zeynab. Baignée et vêtue des plus beaux cotons et de soieries, Zeynab appliqua de l'eau de rose sur ses poignets et dans son cou. Elle ouvrit ensuite doucement le flacon de bronze délicatement sculpté de kohl. Prenant l'applicateur à la fine tête gravée, elle souligna, avec la poudre noire de minuit, ses beaux yeux d'ébène, accentuant ainsi leur mystère. Elle traça avec soin une ligne brune du milieu du menton jusqu'à sa lèvre inférieure, puis sur l'arête du nez, et demanda à Kaina de lui apporter de l'ambre gris pour se parfumer. Enfin, portant un diadème en argent, un bijou enroulé autour du front, décoré de pièces de monnaie pendantes et incrusté d'ambre, avec une amulette assortie, Zeynab ressemblait à la beauté céleste et à la reine qu'elle était. Il était temps de retrouver les invités. C'était aussi un moment opportun pour leur faire part de ses projets de développement du Maroc. Les femmes berbères ont longtemps rehaussé leur beauté de multiples façons. Parmi celles-ci, la plus caractéristique est leur ancienne tradition de tatouages faciaux et corporels qui indiquait la tribu à laquelle elles appartenaient, ainsi que les différentes phases de leur existence, féminité, mariage et maternité. Des emblèmes comme des triangles et des demi-cercles étaient courants, selon des motifs signifiant la force, l'énergie, la fertilité, la guérison et la protection contre la convoitise. Un autre usage de la couleur sur le corps est le rite, d'un charme particulier, du kohl appliqué pour embellir et protéger les yeux des rayons du soleil, du sable et des infections, selon la médecine traditionnelle. Souligner le contour des yeux avec du kohl, qui donne à la personne une belle auréole de mystère et de séduction, est courant dans les cultures berbères, sémitiques, musulmanes d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud. Aujourd'hui, beaucoup de marques cosmétiques s'en inspirent pour leurs lignes de kohl et d'eyeliner. Le kohl traditionnel était initialement fabriqué à partir de la cendre d'encens et plus tard à partir de minerais comme de l'antimoine en poudre ou de la galène. Aujourd'hui, la composition contient des ingrédients beaucoup moins dangereux. Outre les symboles cosmétiques et culturels dérivés de la nature, les bijoux sont un autre signe distinctif des femmes berbères. Fabriqués principalement en argent, avec des perles colorées et des pierres semi-précieuses, leurs bijoux ne sont pas seulement des parures, mais un témoignage de leur position sociale et de leur prospérité. Les superbes bandeaux, bracelets, amulettes, colliers portés par les femmes berbères sont un véritable plaisir pour les yeux. Avant le début de la fête, Zeynab et Youssef s'adressèrent aux invités, les félicitant pour les progrès réalisés par la ville de Marrakech. Les Almoravides doivent désormais envisager leur essor tout en continuant à fortifier et développer Marrakech. La reine Zeynab a très habilement veillé à établir un système efficace d'approvisionnement en eau pour subvenir aux besoins de notre population, de nos champs et de nos vergers. « Nous devons maintenant chercher à unifier les tribus du Nord », déclara Youssef à l'assemblée de ses ministres et des princes. Zeynab, belle vision de sagesse, de grâce et de puissance tranquille, parla aux hommes. Concentrez-vous sur les tribus fortes et ne perdez pas de temps et d'énergie sur les plus faibles. Quand les plus fortes deviendront vos alliés, les autres suivront. Elle regarda ensuite les femmes et poursuivit. C'est vous qui allez renforcer notre pays de l'intérieur, en partageant vos difficultés, en élevant votre voix et en éduquant vos filles. Nos femmes auront leur mot à dire sur la façon dont ce pays est gouverné, et leur sagesse nous servira bien. rien n'empêcherait Zeynab d'étendre l'Empire et faire de Marrakech une capitale idéale pour les Almoravides. Ni le cadre sauvage du désert, ni son précédent mari, ni le patriarcat, ni aucun autre obstacle. Son fils serait à la tête d'une cité prospère qu'elle entendait placer au centre de l'Empire Almoravide.
Vous venez d'écouter le dernier épisode des Rituels de beauté à travers les siècles par l'Officine Universelle Bully. Retrouvez nos autres récits sur toutes les plateformes d'écoute.